Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
Le bistrot du livre, une émission proposée par Cépage d'encre avec Henri et Françoise. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Quelle différence y a-t-il entre un écrivain ? C'est une petite devinette absurde, mais qui a au moins une réponse. Vous avez en gros deux sortes d'écrivains. Ceux qui s'exilent sur des territoires inconnus, dans l'imaginaire le plus lointain, et des écrivains qui s'ancrent sur des terres connues, souvent leurs terres d'origine. On ne parle pas là des écrivains régionalistes, mais d'auteurs qui se servent de la terre qu'ils foulent tous les jours, ou qui ont baigné leur enfance, pour faire surgir des histoires, des personnages directement issus de cette matière-là, de cette matrice. Alors on pense à Delteille, on en avait parlé il y a quelque temps, à Giono, à Mauriac. Et aujourd'hui, vous avez une femme, une écrivaine, qui, livre après livre, laboure le terreau de son enfance pour en faire surgir des personnages, des récits de vie qui ont tout du réel, mais qui sont au-delà du réel. Et c'est bien là l'intérêt de ce genre d'écrivain, partir d'un matériau connu, personnel, intime, pour toucher à l'universel.
Son nom, Marie-Hélène Lafon.
Marie-Hélène Lafon est une écrivaine que connaît bien Françoise, et pour cause.
Oui, parce que c'est une voisine, une cousine de territoire. Elle est née dans le Cantal, qui est aussi ma terre familiale d'origine, mon pays premier, comme elle dit. Elle est née en 62, elle a fréquenté le même collège et lycée de Saint-Flour que moi. Sa sœur aînée était en classe avec moi, mais bon, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'elle dit de ce pays, de ces gens de là-bas.
Des personnages qu'elle a longtemps portés en elle avant d'en faire des romans. D'abord prof agrégée de français, latin, grec, elle enseigne en banlieue parisienne, écrit quelques nouvelles et à 34 ans se lance dans l'écriture, travaillant son style comme on travaille la terre, avec patience, acharnement et modestie.
À la ferme, le grand-père ne racontait pas, il montrait. On allait au bord de la rivière mettre le feu au tas de brousse sèche rassemblée au préalable. On s'affairait sans parole dans le tremblement de l'air et la fumée bleue. Ces délices pyromaniaques s'accompagnaient de chaotants trajets en tracteur. Pas le gros, celui de l'oncle, le mastodonte jaune à cabine, le presque neuf dévolu aux travaux majuscules, non. Le vieux, l'ancêtre. Le tracteur nu et maigre, rouge usé, aux entrailles suantes, capitaux des nœuds, poussière grasse, qui a âné, pétaradé depuis 40 ans entre prés et bâtiments. Alerte, vaillant et familier, au point qu'il répondait au mystérieux surnom de Zizou.
Pour son premier roman, Le Soir du Chien, elle reçoit le prix Renaudot des lycéens, puis deuxième roman, Sur la photo, mais c'est le troisième qui la fera vraiment connaître. Son titre, L'Annonce, où l'histoire de ces paysans esselés sur des terres sans femmes, elles sont parties à la ville, et qui n'ont d'autre échappatoire que les petites annonces pour trouver une compagne. Exemple de l'écriture sensible et précise, cette scène. La première rencontre, après quelques lettres, suite de l'annonce, lui c'est Paul, paysan du Cantal, elle, Annette, ouvrière dans le Nord, maman d'un petit garçon, premier mot, première approche.
Il regardait Annette, marquait une pause, buvait une gorgée de chocolat chaud qu'ils avaient commandé au café de la gare. Quand elle viendrait, si elle venait, il s'emballait, la voix soudain comme enfoncée, perdue dans la gorge. Quand elle viendrait, elle comprendrait que les bêtes ne prennent pas de vacances. Il avait presque ri, elle aussi. Il faut s'en occuper tous les jours, des vaches, des veaux, et de tout ce qui se fait dans une ferme, dont on n'a pas idée quand on n'est pas du métier, forcément. Ses mains s'ouvraient, se fermaient, s'ouvraient autour de la tasse vide. Annette regardait les mains. C'était simple de l'écouter. Annette regardait les mains, la tasse, le gros vêtement d'hiver et l'écharpe verte posée sur la table à côté de lui. Elle l'écoutait. C'était simple de l'écouter. Il travaillait beaucoup, mais on avait ce qu'il fallait en restant raisonnable. Et la situation était saine, sans grosses dettes. Annette l'écoutait, le suivait, Il le sentait à ses yeux arrêtés sur lui et à sa façon pleine d'être là, sans faire semblant ni penser à autre chose. Ne pas trop parler du métier d'abord, pas uniquement du métier, même si c'était toute sa vie.
Dire la terre, la vie de la terre, les gens de la terre, de cette terre dure et froide du Cantal, chaude, brûlante l'été, glacée, neigeuse l'hiver. C'est tout le talent de Marie-Hélène Lafon. Et dire ces gens, ces derniers paysans à l'ancienne, qui peu à peu s'effacent. Ce Joseph, par exemple. Joseph, l'un de ses derniers romans, ouvrier agricole, qui demain quittera cette ferme où il a passé sa vie, pour une maison de retraite à la ville. Le décrire, le dire avec une attention soutenue, une précision chirurgicale.
Les mains de Joseph sont posées à plat sur ses cuisses. Elles ont l'air d'avoir une vie propre et sont parcourues de menus tressaillements. Elles sont rondes et courtes, des mains presque jeunes comme d'enfance, et cependant sans âge. Les ongles sont coupés au ras de la chair, on voit leur épaisseur, on voit que c'est net. Joseph entretient ses mains, elles lui servent pour son travail, il fait le nécessaire. Les poignets sont solides, larges, on devine leur envers très blanc, charnu, onctueux et légèrement bombé. La peau est lisse, sans poils, et les veines saillent sous elle. Joseph tourne le dos à la télévision. Ses pieds sont immobiles et parallèles dans les pantoufles à carreaux verts et bleu marine achetées au casino.
Joseph, ouvrier à la retraite, symbole d'une campagne qui peu à peu disparaît, se transforme. Ce qu'en dit Marie-Hélène Lafon.
Joseph est ouvrier agricole, donc il ne l'est pas à Asnières ni à la Garenne Colombes. Et il se trouve en effet qu'il l'est dans le Cantal. Ceux qui ont lu un certain nombre de mes livres n'en seront pas tout à fait surpris. Mais je me suis déjà laissé dire qu'il pourrait l'être à peu près dans n'importe quel autre terrain, terreau ou terroir, pour employer un mot un peu chargé, agricole. Et il se trouve que sa géographie intime a quelque chose à voir avec la mienne, assurément. Et on y retrouve, par exemple, cette rivière Santoire qui coule dans tous mes livres, qui est le nom d'une rivière, qui est aussi un patronyme, et dont Joseph sent que, d'une certaine manière, elle coule comme à l'intérieur de lui-même. Donc Joseph participe de ce corps de pays, au sens très intime, très charnel, peut-être même un peu parfois sensuel du terme, de ce même corps de pays un peu émacié qui est très présent dans tous mes livres. Et en même temps, Joseph a sa manière à lui de voir ces choses, car Joseph ne donne pas du tout dans la bucolique champêtre, du tout.
Mais Marie-Hélène Lafon, ce n'est pas que le Cantal, la terre et les paysans, même si tout dans ses livres remonte de l'enfance. La preuve dans l'un de ses premiers romans, écrit en 2005, Mots, l'histoire d'un jeune Algérien qui a grandi et vécu en France, un gamin un peu différent des autres, plus lent, vivant dans son monde, à lui. La preuve, c'est qu'en exergue de ce livre, l'auteur cite Fellini qui disait « Je suis toujours autobiographique, même si je me mets à raconter la vie d'un poisson ».
Le jeudi était jour des pieds. La mer ne pouvait pas se pencher. Les pieds de la mer étaient durs et cornés, larges, courts et gonflés. Il les prenait dans ses mains. Elle ne disait rien. Elle tenait son menton droit et regardait loin devant elle, contre le mur. Elle voyait à travers les images de la télé. Elle n'éteignait pas. Elle gardait les images, elle enlevait le son. Elle aimait l'eau tiède. On entendait les clapotis, de menus frottements ou des cliquetis d'instruments métalliques. Il coupait les ongles de la mer chaque semaine. Il les coupait très courts au ras de la chair. La matière des ongles était jaune, épaisse. Les pieds de la mer ne se sentaient pas. Il apportait la bassine d'eau tiède, presque chaude. Il gardait cette bassine ronde et orange dans le meuble bas de la salle de bain sous le lavabo. Elle ne servait à rien d'autre. Elle restait neuve et luisante. Les pieds de la mer trempaient dans la bassine. Ils reposaient. La mer ne bougeait pas.
Et quel que soit le sujet traité, il y a chez Marie-Hélène Lafon une sensualité à fleur de page, à fleur de terre, à fleur de peau. Comme ici, dans Mots toujours. Maud travaille dans un centre commercial et il y a dans ce centre une boulangerie et il y a Maria qui y travaille. Maud a beaucoup regardé Maria. Et puis, tout doucement, il s'est approché, a entamé la conversation, puis une première rencontre, et un jour de Noël, une balade dans la voiture de Maria sur les bords du Rhône.
Maria s'est allongée sur les planches. Elle a ouvert sa fermeture éclair. Il a entendu le bruit lent. L'écharpe de Maria faisait une bande très bleue et douce derrière eux. Elle l'avait disposée sur les planches propres. Mo a deviné les seins écartés sous un tissu rouge et brillant. Leurs vêtements étaient assortis. Il a ri en dedans parce qu'il avait déjà imaginé ces couleurs. Il ne s'est pas allongé. Il a posé son doigt tendu sur la peau nue entre le tissu rouge et le pantalon et il a suivi la ligne de chaque côté du nombril. Le corps de Maria a bougé. Elle a ouvert les bras. Il a senti son odeur. Il ne s'est pas penché. Il l'a regardée. Elle a fermé les yeux un moment, ses cheveux brillaient sur le bleu de l'écharpe. Il a attendu. Et il a posé sa main droite sous le nombril de Maria, toute sa main longue. Et il a appuyé, un peu. Maria a dit, « Viens, on s'en va. » Dans la voiture, elle a mis très fort la cassette d'une musique qu'il ne connaissait pas. Elle n'a pas parlé. Ils ont pris l'ascenseur. Le studio était jaune et bien chauffé. Ils ont été nus et ils l'ont fait.
Marie-Hélène Lafont ou le charme d'une écriture précise, sensible, une écriture qui n'en rajoute pas et va à l'essentiel. Cela méritait bien, une fois n'est pas coutume, un petit détour par l'Auvergne. Et maintenant, le courrier des lecteurs, des lectrices. Un livre à suivre, Charlie ?
Alors, nous, on s'en va aux États-Unis avec John Fante. J'ai choisi Le vin de la jeunesse, j'aurais pu choisir en n'importe lequel. Moi, c'est un écrivain qui me parle, au final. Là, ça raconte un peu son enfance, puisque en fait, il parle tout le temps de lui. Là, ça s'appelle Le vin de la jeunesse. Moi, je pense que ça aurait pu même s'appeler Le vin de l'enfance. Carrément, c'est un très bon bouquin, facile à lire, comme tous ses bouquins, celui-là ou un autre.
Donc, John Fante.
Ouais.
Alors, Françoise, un petit bouquin, non, pas cette semaine. Moi, de mon côté, je vais revenir sur un truc qui a fait le buzz, comme on dit en bon français à la rentrée, Millennium 4. Autant vous le dire tout de suite, j'avais été un peu réticent avant de me lancer dans la saga créée par Stieg Larsson. Et puis un jour, comme tout le monde, ou presque, je me suis lancé et je n'ai pas lâché l'affaire. Et puis quand en septembre, il y a eu tout le battage pour le quatrième tome, là, j'étais super réticent. Un, parce que Larsson était mort avant même de connaître le succès mondial de la série. J'avais été un peu refroidi par la bataille autour de l'héritage, c'était un brin sordide. Deux, je me disais, allez, on exploite le filon. Et puis, David Langerkrantz, journaliste, oui, mais pas forcément romancier, hormis la biographie de Zlatan Ibrahimovic, bon, même si elle a fait un tabac, personnellement, j'ai rarement vu des poètes dans les tribunes de foot, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Donc j'y suis allé à reculons sur ce tome 4, avec dans le coin de ma tête, quand même, si Actes Sud le publie, c'est quand même plutôt bon signe. Et puis, eh ben, je n'ai pas été déçu. On retrouve Lisbeth, la hackeuse déjantée, Michael Blomqvist, le super reporter de Millennium. On reste fidèle au personnage. On plonge dans l'univers de la cybercriminalité, mais vraiment avec précision. On farfouille dans les ordinateurs de la NSA, les super espions américains qui traquent tout de votre vie privée. On s'attache aussi à un jeune autiste, et ça c'est passionnant. Et par parenthèse, ça donne envie de lire ou relire « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » d'Oliver Sacks, dont il est beaucoup question dans le livre. En un mot, je me suis régalé. Et rassurez-vous, la porte est déjà ouverte dans le livre. Pour le tome 5, tous les méchants, et surtout la méchante, ne sont pas morts, sûr, ils reviendront. Et puis en illustration, vous avez la semaine dernière ces trois jeunes hackers qui ont réussi à s'introduire dans la messagerie perso du patron de la CIA, avec publication de certains de ses courriers, sûrement des lecteurs de Millennium.
Dernière chose, l'agenda. Et une belle expérience que l'on doit à L.R. de Zelle, Languedoc, Roussillon, livre et lecture.
Oui, des auteurs dans des collèges, ça se passe à Bram, à Carcassonne et à Coursan, pour les villes les plus proches. Durant l'année, les auteurs sélectionnés viennent 6 fois travailler avec des collégiens pour mener à bien une création littéraire.
Alors à Carcassonne, c'est Stéphane Servant, l'auteur de 5 minutes et des Sablés.
À Coursan, c'est Nicolas Ancion qui viendra avec son livre « L'auteur en mille morceaux ».
Et Abraham Jocelyn Bonnerave, « L'homme bambou », un animateur d'atelier d'écriture, à vous recommander aussi, Jocelyn Bonnerave.
Voilà, on vous tiendra au courant de cette aventure, parce que c'est pas mal. Et bien pour nous, aujourd'hui, c'est fini. À suivre dans le 6e épisode, « L'affaire Bovary ».